Dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous voyons à partir de cette lecture que, en tant que chrétiens, nous avons un adversaire qui, lui, n'est jamais en vacances. La Bible l'appelle le tentateur qui n'est jamais en vacances. Et c'est lui qui est particulièrement alerte et en mouvement lorsque le chrétien est tenté. Nous allons voir les origines de la tentation et les sources de la tentation. Car le but du tentateur, c'est justement de voir et de pouvoir nous pousser un peu pour que nous puissions tomber dans le péché et ainsi rompre la communion avec le Seigneur. Il cherche, ne l'oublions jamais, il ne cherchera jamais votre bonheur et votre succès. Il cherche votre perte. Il cherche à nous perdre, à perdre les âmes. C'est pourquoi nous devons être sobres, veillés et résister d'une foi ferme au tentateur, au diable qui rôde. Résistez-lui d'une foi ferme. Car le but du Seigneur, c'est que nous soyons debout, c'est que nous soyons une église et des chrétiens forts qui sont debout dans la foi, qui sont victorieux dans le combat et qui sont capables de surmonter la tentation lorsqu'elle frappe à notre porte. Qu'est-ce que donc la tentation ? La tentation, c'est lorsque deux voix se font entendre à notre cœur. Deux voix simultanées. L'une dit « Fais la volonté de Dieu. Tu la connais bien, fais-la. » L'autre voix vous attire dans la direction opposée, transgresse la loi de Dieu et ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a donc cette zone de conflit dans laquelle nous entrons lorsque nous sommes tentés. Nous sommes dans une zone d'instabilité, de conflit, de combat intérieur, dans un combat spirituel entre ce que est juste et ce qui n'est pas juste. Nous sommes dans cette attente, dans ce temps où nous devons choisir. Et ce matin, je vais certainement accentuer passablement ce mot « choisir », « décider », car le choix nous revient toujours. La tentation, c'est lorsque je suis amorcé, attiré par un désir, soit de faire le contraire de la volonté de Dieu, et je dois me positionner, me décider entre laisser cette attraction mauvaise faire son effet, ou alors revenir dans la bonne attraction du Saint-Esprit qui m'attire vers la volonté de Dieu. La tentation, nous dit la parole de Dieu, elle est toujours amorcé par quelque chose. En premier lieu, souvent on dit « Ah oui, mais c'est le diable qui m'a tenté. C'est quelqu'un d'autre qui m'a tenté. » On est champion pour se déresponsabiliser, pour mettre la faute sur quelqu'un. Et je pense que le diable, il a bon dos, souvent. Mais la première chose, nous dit la parole de Dieu, c'est la chair et ses points faibles qui amorcent les tentations les plus courants dans notre vie. Deuxièmement, il y a aussi, bien sûr, des attaques du diable. Et lorsque Jésus va être tenté, ce n'est pas sa chair qui est le point d'amorce de la tentation, mais c'est le diable directement qui vient le tenter, qui vient le provoquer, qui vient lui faire des propositions incroyables. Parfois, nous vivons cela aussi. Des attaques directement qui viennent droit d'un endroit ténébreux et qui nous touchent de plein fouet sans que nous l'ayons cherché. Parfois, c'est très subtil. Et puis, nous dit la Bible aussi, que le monde dans lequel nous sommes, autour de nous, il y a mille et une possibilités d'être tenté. Alors la Bible affirme trois choses. La première, c'est que tout le monde est tenté. La tentation est une expérience commune à tous les hommes. Même le chrétien le plus spirituel, le plus fort et le plus averti, le plus expérimenté parmi nous est tenté. Tous nous sommes tentés. La Bible le dit. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation qui ne vous est arrivée n'a été humaine ». Ça veut dire, on peut prendre des traductions qui l'expliquent un peu mieux. Bon, en français courant, on le dit « Les tentations auxquelles que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes ». Nous sommes tous tentés. Tous les hommes sont tentés. Elles peuvent être récurrentes, persistantes, subtiles, parfois violentes, énormes. Mais même si vous dites « Mais les tentations et les épreuves que je vis sont tellement énormes, vous ne pourrez jamais surpasser la tentation dont a été l'objet Jésus lui-même. » Personne n'a subi un poids, une attaque d'une telle violence, d'une telle amplitude que Jésus à différents moments de son ministère. Jésus a été tenté, nous dit la Bible, en toute chose. Après 40 jours de jeûne, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert par l'Esprit, à la fin des 40 jours où il est faible, où il arrive au bout de ses ressources. Est-ce que l'onction l'a quitté ? Non. Est-ce qu'il a perdu la présence du Saint-Esprit ? Non. Mais le tentateur vient tellement près lui parler et lui suggérer des choses impressionnantes. Le tentateur est arrivé et vient juste dans un moment de faiblesse. Le tentateur viendra toujours dans un moment de faiblesse. Il profite, il est mauvais, méchant, il profitera de vos faiblesses, de mes faiblesses, pour suggérer des choses juste à ce moment-là. Les doutes, les craintes, et toutes sortes de choses. Et puis, comment ne pas réfléchir et parler un instant en méditant sur ce que Jésus a vécu à Gethsémané, lorsque il a été dans ce lieu qui s'appelle Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Il a été pressé à l'extrême au point qu'il a transpiré des gouttes de sang pour accepter la volonté de son Père. Que devait être cette violence de la tentation à ce moment-là? Que devait être la violence de la croix lorsque les démons, par horde entière, étaient contre lui en train de dire « Tu es vaincu, tu peux t'échapper maintenant. » Et il y avait des tentations de toutes sortes. Jésus nous dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, verset 15. « Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais, à la différence près, sans commettre de péché. » Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus est le seul qui est capable de te comprendre parfaitement dans tes tentations, dans les pressions que tu subis, dans les combats intérieurs dans lesquels tu te trouves, dans la difficulté de te décider pour ou contre certaines choses qu'il faut pourtant choisir. Jésus te comprend et il te donne son secours. Alléluia. Il donne son secours. Toujours, il nous assure son secours. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, la tentation n'est pas le péché, pas encore, pas encore. Pas plus tard qu'avant-hier soir, je recevais un message suite à ces nombreuses vidéos qui circulent sur les sites et sur Internet et sur etc., YouTube et tout. Une personne inconnue me fait un message au secours. « J'ai peur d'aller en enfer, je suis tenté, je n'arrive plus à croire. » Et au lieu de faire des longues conversations, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé cette personne que je ne connaissais donc pas et qui avait justement, était justement pas au clair que la tentation n'est pas le péché. Elle pensait qu'avoir une mauvaise pensée, c'était déjà atterrir en enfer. C'était déjà une pensée terrible, une pensée affreuse, était déjà la perdition. Mais non, une tentation n'est pas le péché. D'où vient l'attraction du péché? Quelle est l'origine? Nous l'avons dit dans Jacques 1, qui est un texte particulièrement important. Je vous invite à le regarder avec moi, Jacques. Tournez quelques pages en avant de votre Bible, Jacques chapitre 1, verset 13. Il nous est dit ceci. C'est ce texte-là, justement, qui nous explique avec clarté que la tentation n'est pas le péché, mais il y a zone de danger, zone de conflit, zone de combat. Il nous est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ça, c'est déjà important à savoir. C'est pas Dieu qui vous tente. C'est pas Dieu qui vous tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Ce texte, il faudrait qu'on le souligne dans notre Bible pour l'avoir à portée de main constamment. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça veut dire qu'il y a des étapes, il y a un petit processus, il y a un petit chemin d'une certaine longueur entre le moment de la tentation qui commence à m'attaquer, une attraction, une amorce quelque part, quel que soit le sujet, que ce soit un sujet intérieur, un sujet extérieur à vous, que ce soit quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous met en... Ça peut être la colère, la jalousie, ça peut être la tentation sexuelle et autres, toutes sortes de choses. Mais vous n'avez pas encore passé à l'acte. Tant qu'elle est en vous, c'est la tentation. Mais lorsque vous commencez à flirter, à jouer avec la tentation, lorsque vous commencez à l'accueillir, lorsque vous commencez à... aimer ce qui est défendu et que vous savez être mauvais, lorsque vous commencez sur ce terrain, vous êtes sur le terrain glissant qui va vous conduire au péché. Le péché n'étant pas loin, on peut concevoir le péché, enfanter le péché et consommer le péché. Il y a plusieurs étapes pour finalement être piégé dans le péché et être là dans un moment où la communion est coupée avec Dieu. Caïn va vivre cela. Nous en avons parlé récemment dans un autre message. Lorsque Caïn est pris dans sa colère qui est devenue d'abord de l'amertume, ensuite la colère, ensuite la haine, et ensuite le désir de tuer, c'était donc la tentation à son point culminant, le mal à son maximum. Dieu lui dit, Caïn, le péché est couché à ta porte. Il veut te dévorer. C'est la tentation qui veut te piéger, qui veut détruire ta vie. Et le tentateur est là derrière pour pousser encore, pour faire pression. Mais toi, domine sur lui. Donc si Caïn pouvait dominer sur cette pensée de meurtre, mes amis, chacun de nous, nous pouvons le faire avec l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Chacun de nous. Nous pouvons réagir. La parole de Dieu à Caïn, c'était « Caïn, réagis ». Ressaisis-toi. Je te donnerai les moyens, je te donnerai la force pour réagir. Donc, la tentation n'est pas le péché, mais peut conduire facilement au péché. Troisième réalité au sujet de la tentation, c'est que la tentation, c'est une épreuve, c'est un test. D'ailleurs, le mot grec perasmos veut dire tentation ou épreuve. Un test, pourquoi ? À quoi servent les tests ? À quoi servent les examens ? Eh bien, pour nous faire grandir en maturité. Pour nous faire grandir en expérience, pour nous faire grandir dans la stature parfaite de Christ, pour pouvoir être des hommes et des femmes qui savent tenir debout et qui savent tenir dans les vents contraires et dans des pressions en choisissant ce qui est juste et non pas ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc chaque fois que vous tombez dans une tentation, vous allez répéter peut-être la chose, mais Dieu désire que vous puissiez vaincre la tentation. Et prendre des positions et devenir mature, afin d'être transformé à l'exemple du modèle parfait. Nous allons maintenant, très courtement et assez rapidement, voir les quelques clés pour vaincre la tentation, pour résister à la tentation. Première clé, c'est être armé, être rempli de la parole de Dieu. C'est la première chose. Nous devons être remplis. Et je voudrais vous poser la question ce matin, de quoi es-tu rempli, mon frère, ma sœur ? De quoi es-tu habité ? Colossiens 3,16, c'est facile à retenir, Jean 3,16, on connaît. Colossiens 3,16 est également important. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous. Qu'est-ce qui t'habite ? La parole de Dieu doit habiter dans nos cœurs. Et je suis parfois effrayé de voir à quel point la parole... elle n'est pas intégrée dans nos vies, malheureusement. Il faut qu'elle soit lue, méditée et intégrée, c'est-à-dire mise en pratique. Il faut l'utiliser, il faut la Il faut l'intégrer dans notre vie afin que nous soyons habités par la parole de Dieu. Habités. Est-ce qu'on veut le dire ensemble ? Habités par la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous la méditons, nous allons de plus en plus l'aimer. Et lorsque vous êtes tenté, puisque vous aimez la parole de Dieu et que vous aimez le Seigneur et que vous ne voulez pas lui faire de la peine, vous avez la crainte de Dieu, vous allez pouvoir choisir oui à la volonté de Dieu et non à ce qui est contraire à sa volonté. Donc vous allez pouvoir tenir dans la tentation parce qu'une parole que vous aimez vous habite. Il faut que la parole nous habite, frères et sœurs. Ne vous contentez pas juste de surfer sur quelques textes qui vous arrivent spontanément sur votre portable le matin ou que sais-je. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Nous le disons régulièrement. Si nous nourrissons la chair avant tout, nous ne devons pas être étonnés que les exigences de la chair vont nous habiter davantage. Si nous laissons la chair s'exprimer, nous allons être habités par les désirs de la chair. C'est évident. Je dirais pas seulement les désirs, mais la dictature de la chair. Car c'est une dictature. C'est une chair qui est exigeante. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment le manuel du fabricant. Quand Dieu nous a créés, il savait que nous allons devoir confronter la tentation. Et il nous donne ce manuel entre nos mains pour que nous puissions nous en instruire. Hein ? Souvent, quand on reçoit un appareil, on ne lit pas le manuel du fabricant, on le laisse dans le plastique, on le laisse dans la housse et on commence tout de suite à vite, il faut le mettre à l'emploi, brancher, etc. Et puis souvent, lorsque ça ne marche pas, on pense, ah oui, il y a un manuel, je vais regarder un petit peu, vous regardez à la fin, c'est marqué, lorsque l'appareil ne fonctionne plus, point 1, point 2, point 3, et puis vous réalisez enfin que vous n'avez même pas branché la machine. C'est ce que vous aviez oublié, le manuel du fabricant vous le rappelle. C'est cette pratique, cette habitude de la parole de Dieu qui doit nous habiter, et cela prend du temps. Ça demande des priorités, d'habiter, de laisser Jésus nous habiter par sa parole. Jésus, revenons à sa tentation au désert, il a pu citer la parole à propos pour faire reculer le diable, pour refuser le diable et ses propositions, parce que la parole habitait dans son cœur. C'est une arme, c'est une épée que nous devons utiliser. Dieu nous aide toujours, il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est un texte clé pour la tentation, 1 Corinthiens 10, 13, notez-le. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, comme il est fidèle, il prépare le moyen de nous en sortir, afin que nous puissions la supporter, que nous puissions prendre position, même lorsqu'elle arrive, elle arrive avec surprise. Nous recevons toujours la force pour vaincre, mais il faut être habité par la parole de Dieu. Deuxièmement, la clé numéro 2, c'est la suivante. Nous lisons dans Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumission est la condition pour pouvoir résister. Nous ne pouvons pas résister au diable si nous ne sommes pas soumis au Seigneur d'abord. Je me soumets. Alors que nous avons dit tout à l'heure le mot « habiter », nous disons maintenant le mot « soumission ». Soumission, c'est important. Notre seule manière d'habiter, d'être vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit, comme Jésus l'était. Maintenant, alors que nous avons compris cela, il y a une autre clé qui s'annonce. C'est de ne pas s'exposer inutilement à la tentation. Ça veut dire, n'allez pas dresser votre tente sur une île qui s'appelle l'île de la tentation, par exemple. Ou bien, ne mettez pas, par exemple, si vous avez un problème avec, vous mangez trop de chocolat, et vous dites, je vais placer des tablettes de chocolat partout, et je vais passer à travers, et je dis, je résiste, je ne mangerai pas. Ça va marcher 10 minutes, puis ce sera terminé. Vous allez craquer comme tout le monde. Nous ne devons pas nous exposer inutilement. C'est pour ça que le Notre Père insiste sur cette prière, que nous devons chanter tout à l'heure d'ailleurs. Ne nous soumets pas. Le mot, n'est pas tout à fait la meilleure traduction. Il faudrait dire, Seigneur, lorsque je suis tenté, ne me laisse pas tomber, j'ai besoin de toi. Je ne me prends pas plus fort que ce que je ne suis. Ne me laisse pas tomber dans la tentation. Nous avons dit que Dieu ne peut pas être tenté, donc on ne peut pas dire ne nous induit pas en tentation. C'est faux, parce que Dieu ne peut pas nous induire en tentation, nous suggérer le chemin glissant. Mais lorsque je suis sur le chemin glissant, lorsque je suis dans la période du combat intérieur, alors je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, et je prie, Seigneur, garde-moi de céder à la tentation. Ça serait une bonne traduction. Garde-moi de céder à la tentation. Ne me laisse pas tomber à la tentation. Donc si je demande de l'aide à Dieu, je ne dois pas m'exposer inutilement. C'est comme si vous approchez pour être guéri d'une maladie et qu'en même temps vous empoisonnez votre corps par quelque chose. Ça n'a pas de sens. Il faut s'éloigner de ce qui détruit notre vie, d'abord, et ensuite demander l'aide du Seigneur. Donc ne pas s'exposer inutilement. Fuir. Ah, voilà encore un mot à prononcer. Fuir. Regardez ça. Matthieu chapitre 5, verset 29, nous le dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Waouh. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté de la géhenne. Cela veut dire, Jésus nous dit par ce texte, qu'il y a vraiment une attitude absolument radicale à prendre dans notre vie, à importer dans notre vie, à intégrer notre vie pour combattre la tentation. Tant que nous flirtons avec, tant que nous négocions, tant que nous excusons, tant que nous aimons, puis on n'aime plus, puis on aime, puis on n'aime plus, tant que nous jouons avec cela, nous ne sommes pas libérés. Nous ne sommes pas libérés. Nous avons besoin de ce traitement radical, car Jésus dit, si tu laisses le péché triompher de toi, ça va se terminer tôt ou tard dans la géhenne. L'enfer est la destination finale, terrible. C'est pourquoi dans ce mot tellement choquant, tellement important, Jésus nous dit, mais il faut prendre des décisions. Tu ne dois pas jouer avec la tentation, parce qu'elle va te vaincre. On a des exemples, prenons simplement deux grands exemples, qui sont les grands classiques de la Bible. David, lorsqu'il était pratiquement au sommet de son art de faire la guerre, et il était tellement dans les réussites qui se succédaient les unes aux autres, il est à un moment donné tout seul. Ça roulait tellement qu'il était en retrait sur le toit de sa maison, en train de prendre des vacances et en train de siroter une petite bière. Il était là, mes armées ont tellement de succès, ça marche. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis dans cette oisiveté, c'est pour ça que l'oisiveté est mauvaise. Vous êtes d'accord avec ça? L'oisiveté n'est bon pour personne. Nous sommes faits pour travailler, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le travail est une protection pour nous. Nous ne sommes pas faits pour l'oisiveté. L'oisiveté entraîne plein de problèmes, plus de problèmes que votre travail. Ça, tout le monde peut lever la main, je pense. Et David, donc, aperçoit une belle femme qui prend son bain. Je me suis toujours posé la question, pourquoi elle n'avait pas mis un paravent autour? Mais elle prend son bain, il la voit, il la convoite. Donc voilà, vous connaissez l'histoire, il commet l'adultère avec Bathsheba. Simplement parce qu'il était dans l'oisiveté et il n'a pas fui la tentation, il n'a pas mis une distance. Le premier regard sur quelque chose de défendu n'est pas le péché. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième regard et le fantasme dans votre esprit, c'est vous êtes à deux doigts de péché. Vous êtes déjà en train de pécher. Si on prend ce que Jésus dit, celui qui convoite dans son cœur une femme qui n'est pas la vôtre, commet déjà adultère. Donc vous êtes, d'après Jésus, déjà en train de pécher. Donc ça va loin, ça va, c'est rapide et c'est très subtil. Et Jésus parle d'une manière radicale pour que nous puissions intégrer la radicalité indispensable pour vaincre la tentation. L'autre exemple classique, David est tombé, mais Joseph, lui, a résisté. Joseph qui, on connaît son histoire, vous lirez ça dans Genèse chapitre 39 et suivant, il avait cette opportunité dans la maison de Potiphar où tout lui réussissait également, comme David. Il était dans la bénédiction, il avait l'Esprit de Dieu, et là il est amorcé, non pas, c'est pas lui qui amorce, mais c'est la femme de Potiphar qui insiste pour coucher avec lui, et lui est clair dans sa tête depuis le début qu'il ne fera pas ça, et sa détermination, un autre mot à dire, détermination qui était claire avant dans son cœur, avant la tentation. Voyez-vous, pour vaincre la tentation, vous devez être déterminé avant. Si vous savez que tel point est faible dans votre vie, vous devez savoir comment réagir avant que le point faible ne vienne poser problème. Il faut être armé avant. La parole doit nous habiter avant, la crainte de Dieu doit nous habiter avant. Donc, Joseph, après les lourdes insistances de la femme de Potiphar, va finalement s'échapper, laissant le vêtement. Il perd son vêtement, mais il ne perd pas sa pureté. Il perd son vêtement, qui sera preuve contre lui, mauvaise preuve malheureusement, preuve contre lui, qui sera prise comme injustice contre lui, mais il ne perdra pas sa communion avec Dieu et il fera 2 ans de prison pour ça, injustement. Est-ce que nous sommes prêts à faire 2 ans de prison pour avoir été intègre et avoir dit non à la tentation, non au péché? C'était une fuite indispensable. Et j'aime bien cette pensée qui dit, si tu dois fuir et mettre la tentation dans ton dos, tu dois quitter. Voyez-vous, certaines fois, il faut quitter certains lieux. Il faut quitter un écran. Il faut quitter des lieux mauvais, des présences mauvaises, des personnes qui sont pour vous des sujets de tentation. Des choses, vous savez de quoi je parle. Il faut quitter ces lieux. Il faut quitter. Si tu tournes en rond dans ta chambre et que différentes choses sont des sujets de tentation, bien, il faut quitter cette chambre. Va faire du sport, va faire une course, va faire une promenade, va au bord du lac, va respirer, va vers quelqu'un, prie, fais quelque chose, mais ne reste pas planté là. Ne reste pas juste planté là. Fuir la tentation pour fuir vers le Seigneur, fuir vers lui, s'approcher de lui. Comment faire lorsque les pensées sont attaquées par des doutes, par des mensonges, par la jalousie, par la colère, par mille et une choses mauvaises? Eh bien, la parole de Dieu donne une réponse dans Philippiens 4:8 où il est dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable soit l'objet de votre pensée. Ne chassez pas les mauvaises pensées continuellement, elles vont revenir, c'est prouvé. Mais remplacez les mauvaises pensées par des bonnes pensées. Remplissez le vide par quelque chose de positif et vous allez vous en sortir. Donc là, nous sommes dans la clé suivante, qui est se discipliner. Indispensable également, donc encore un mot à prononcer, discipliner. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Je l'ai déjà dit, c'est avant l'arrivée de la tentation qu'il faut prendre une décision et se positionner. Il faut se discipliner. La discipline dont nous avons parlé récemment au mois de juillet est absolument indispensable. Quelqu'un disait, un des grands mots d'aujourd'hui, c'est l'indifférence face au mal. Si nous flirtons avec la tentation, nous allons forcément à un moment donné devenir insensibles et on va l'accepter sans problème. La discipline est indispensable et pour en sortir, il faut en avoir marre de notre indiscipline. Il faut en avoir marre. Vous devez être fatigué de votre indiscipline pour changer. La crainte de Dieu aide à la discipline. Je fais référence à ce message que vous pouvez trouver sur notre site. La clé numéro 6, prier. Marc 14, verset 38. Veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Je le pense vraiment qu'à cause de notre faible vie de prière, en tout cas de certains, nous sommes beaucoup plus vulnérables à la tentation. Si nous prions davantage, nous sommes davantage, selon ce texte, nous sommes davantage armés, comme la parole de Dieu nous arme, comme la discipline nous arme, comme la prise de position radicale nous arme, eh bien, nous sommes armés par la prière. J'arrive bientôt à la fin. Priez avec d'autres. Matthieu 26, 38 nous dit, lorsque Jésus, à Gethsémané, était dans le pressoir de la tentation, de l'épreuve. Il était broyé par ce poids qui était sur lui, la croix qui arrivait, cette souffrance indicible qui était devant lui. Il va dire ceci, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Donc Jésus avait besoin de prière. Écoutez bien, ceci est très important. Souvent, lorsque nous avons des tentations secrètes que nous n'osons pas dire parce que nous en avons honte, nous nous isolons naturellement, nous restons isolés. Nous restons seuls et on se débat seul le mieux qu'on peut. Mais Jésus, si lui-même a demandé que des amis prient avec lui dans ce moment de tentation, à plus forte raison, avons-nous besoin d'être entourés de prières. Si l'Église est une famille où nous avons confiance, nous devons peut-être aller trouver quelqu'un, une personne discrète, en qui nous avons confiance, un conseiller, quelqu'un, afin que nous puissions prier ensemble, afin que vous sortiez de votre solitude. Le diable veut nous isoler, nous faire mettre sous pression et finalement nous faire tomber dans la tentation. Jésus a pris ses disciples pour qu'ils prient. Un texte que je vais vous lire. Il y a une relation directe entre notre vie de prière et notre victoire dans l'épreuve, entre la qualité de notre communion avec Dieu et notre force pour résister à la tentation. Les disciples étaient très sûrs d'eux-mêmes, prêts à ne pas abandonner le Christ, et ils ont cru pouvoir surmonter l'épreuve par leur propre force. Comment se seraient-ils comportés s'ils avaient prié comme Jésus ? Je dois donner le droit à quelqu'un de m'interpeller. Ça peut aller très loin. Je connais quelqu'un qui, lorsqu'il est en voyage professionnel, se retrouve dans des hôtels, parfois seul. Le soir, il a travaillé dur toute la journée, de nombreuses heures. Le soir, il arrive fatigué, il boit quelque chose. Et dans son désir de se distraire, il va tout juste enclencher sa télé à l'hôtel. Et là, il y a, comme vous le savez, parfois toutes sortes de propositions, d'images, de programmes, etc., qu'on peut soit visionner comme ça ou alors prendre, je ne sais quoi, par des codes et compagnie. Et cet homme qui avait, comme la plupart des hommes, il faut le dire, ce n'est pas une exception, qui avait une tentation aussi en étant loin de sa famille, de sa femme, etc., eh bien, il a dit à un ami, quand tu es tenté, tu peux m'appeler quand tu veux, même en pleine nuit. Et lorsque, à 11h du soir, il était juste là, et la tentation a surgi un peu malgré lui, quoique, quand on est faible sur un point, il ne faut même pas essayer d'allumer la télé. Il ne faut même pas essayer, parce que ça peut très bien venir. Il ne faut pas se croire plus fort. Il faut écouter, ce sera mon dernier point, écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne tous les outils pour vaincre les tentations. Écoutez, le Saint-Esprit dit, n'allume même pas parce qu'il y a des dangers là-derrière. Une fois que c'est allumé, après le combat prend une telle ampleur que tu ne t'en sors plus. Donc cet homme lui a téléphoné. Il a dit, écoute, je suis tombé sur un programme et ils ont prié ensemble. Et ensemble, il dit, écoute, maintenant tu vas éteindre cette télévision. Et tu vas faire un tour et tu vas prier encore et le Seigneur va te donner la force. Donnons à quelqu'un le droit de nous interpeller. Est-ce que je pourrais donner le droit à quelqu'un de simplement venir et ouvrir mon ordinateur? Je dis, écoute, désolé, je viens dans ton bureau, j'ouvre ton ordinateur, je regarde l'historique de tout ce que tu as regardé ces 15 derniers jours. C'est ça, être protégé. Frères et sœurs, si nous voulons une onction dans l'Église, si nous voulons une onction, un impact dans notre vie, nous devons vaincre ces choses. Nous ne devons pas être des chrétiens qui sont dans les hauts et les bas, qui ont des grandes victoires, des grandes déclarations, et puis qui le lendemain sont piégés dans les trucs les plus absurdes, dans lesquels qu'on peut éviter. Frères et sœurs, je crois que l'Église peut monter dans l'onction qu'elle a reçue si nous vivons cette victoire en Christ, si nous aimons la sanctification, si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons la crainte de Dieu, si nous aimons l'écoute et l'obéissance et la soumission au Saint-Esprit, alors nous verrons de grandes choses dans l'Église. Nous verrons de grandes choses dans l'Église. Nous verrons. Et mais pour ça, et c'est mon dernier point, c'est que il faut marcher par l'Esprit. Je dis donc Galates 5, verset 16. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Donc c'est encore un mot à dire, marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur nous dit, si tu marches par la force et la puissance que je t'ai donnée, tu n'es pas obligé de tomber dans les tentations. Tu n'es pas obligé. Avant tu tombais, maintenant tu n'es pas obligé. Regardez cette image que je vais vous montrer. Avant, Eh bien, la tentation, c'est le feu orange qui va clignoter. Le feu orange me dit, Walter, il faut choisir maintenant. Soit tu passes au vert et tu rentres dans le péché. Tu dis, ok, oui, et tu te laisses aller. Ou alors, tu passes au feu rouge et tu dis, je résiste à la tentation. Résistez au diable et il fuira loin de vous, nous avons dit. Hein? Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas obligés de passer au vert. Nous allons nous arrêter au feu rouge. Nous arrêtons au feu rouge parce que le Seigneur te donne la force pour dire non. Je peux vaincre la tentation. Je peux vaincre la tentation. Pour cela, nous devons aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu hait. Tant que nous aimons les tentations, tant que nous flirtons avec, tant que nous négocions, nous nous excusons, tout le monde fait ça. Tant que nous avons une excuse, tant que la parole de Dieu ne nous habite pas pleinement, nous sommes faibles dans les tentations, nous tombons souvent dans le péché, nous sommes faibles, culpabilisés, notre témoignage est par terre. Nous n'avons pas d'impact spirituel dans la prière, nous n'avons pas d'audace, pas d'assurance, tout ça c'est loin. Voyez-vous, les défaites sont abyssales, alors que dans la victoire, nous aurions tellement d'impact si nous pouvions résister aux tentations. Et si je suis tenté, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. » C'est lui qui est la victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire. C'est-à-dire que lui a porté notre péché et je peux venir vers lui. Je fuis vers lui, je viens vers lui, je dis « Seigneur, je viens à tes pieds, j'ai besoin que tu sois mon avocat dans cette affaire. Défends-moi, aide-moi Seigneur. » Nous avons un avocat et il nous donne la compassion. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. J'ai remarqué que des gens qui étaient très durs avec les autres sur un point précis, c'est soit qu'ils avaient eux-mêmes à lutter avec ce même problème, ou alors plus tard, ils ont été confrontés, piégés dans ce problème, et toute leur doctrine est tombée par terre. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Ils ont tellement insisté et mis les gens sous pression avec un point dans lequel ils ont été eux-mêmes, ça a été le retour de manivelle dans leur propre vie. Et ils en ont été personnellement brisés. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde de peur que tu ne sois toi aussi tenté. Amen.